Comment interpréter les comportements du chien de compagnie? Vous vous interrogez parfois sur ce qui se passe dans la tête de votre chien, sur ce qu'il pense de vous, pourquoi il se bat avec ses congénères, pourquoi il fait des bêtises ou il fugue dès que vous avez le dos tourné, pourquoi il a peur d'autres chiens, des humains, des voitures ou des feux d'artifice. Tiens, ça c'est vrai, les feux d'artifice, ça fait fuir les chiens. Pourquoi il a mordu une personne? Est-ce qu'il risque de recommencer? Et puis peut-être envisagez-vous d'adopter un chien et vous voulez savoir où l'acheter, comment le choisir, ce qu'il faut savoir pour ne pas se tromper, comment lui apprendre à être propre. On va en parler dans un instant. Toutes les réponses à ces questions sont dans le livre dont nous parlons ce matin. Son titre, La cause des chiens. Il est publié à compte d'auteur par Laurence Bruder-Sergent, que vous recevez ce matin. Elle exerce les métiers de comportementaliste et d'éducatrice de chiens de compagnie. Jacques Pradel.
Oui, et on va dire aussi à ceux qui nous écoutent que dans un petit instant, on fera le point sur les abandons de chiens, puisqu'on a commencé par là. Et c'est vrai que mieux on connaît son chien, moins on a envie de l'abandonner, hein, je pense. Et il y a des gens qui abandonnent par peur ou parce que voilà, ils n'y arrivent pas. Et, bon, c'est pas très courageux, mais beaucoup de gens le font.
Ils se sentent démunis aussi.
Voilà. Ouais. Et on aura donc Caroline Lanty, la présidente de la SPA, dans quelques minutes. Mais auparavant, je voudrais que vous complétiez ce que vous disiez tout à l'heure à l'occasion de la question d'Olivier, notre facteur, parce que c'est vrai que moi je me mets à sa place et maintenant il y a l'angoisse, il a été mordu une fois, etc.
Voilà.
Alors
exactement.
Donc vous disiez en gros, c'est il faudrait qu'il y ait un temps qui soit dégagé à la fois pour le facteur et pour les maîtres du chien pour qu'il fasse connaissance,
voilà.
Mais il ne peut pas faire connaissance avec 500 personnes.
Alors, voilà, ça c'est une contrainte à laquelle je ne peux rien,
ouais.
Mais disons que pour le moment, le chien vous voit comme un ennemi. Il faut qu'il vous voie comme un ami. Donc, comment faire pour faire ami-ami avec lui? Alors, vous avez le choix. Vous pouvez aller faire une promenade avec ce chien, lui en lancer la balle, mais vous avez autre chose à faire. Ce qui peut bien fonctionner, ça peut être une petite friandise. Donc, tous les jours, si vous pouvez, quand vous arrivez, vous lui jetez, vous lui donnez pas, vous tendez pas votre main avec la friandise dedans, parce que s'il se jette dessus, il risque de, même accidentellement de vous griffer. Si c'est un bon gros Rottweiler, il va vous griffer. Donc, vous pouvez lui jeter la friandise et puis lui dire « Salut le chien, comment tu vas ?» de manière à faire ami-ami, faire les présentations.
Et ils sont très sensibles au ton de la voix, je crois.
Tout à fait. Les intonations nomimiques aussi sont très importantes. Et comme vous disiez que vous avez tout à fait raison, Olivier, maintenant, il a une appréhension, il a une peur. Donc, il dégage une odeur de peur, des phéromones de
crainte. Et ça, c'est pas une légende. Les chiens sentent ça.
Ah oui,
la
bien
peur,
sûr, bien sûr.
Ouais.
Ils ont un odorat qui est tellement plus développé que nous, ils savent tellement mieux s'en servir, ils sentent bien nos émotions.
Donc, il aura un comportement différent à quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui n'a pas peur.
Oui, tout à fait.
Donc, alors, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est qu'à la limite, que le postier, par exemple, le facteur, ait une friandise et qu'il aime à
qu'il fasse ami-ami avec lui.
Ouais.
Voilà, comme nous, quand on se rencontre, on se serre la main, on se dit bonjour, on fait connaissance, on échange éventuellement une carte de visite. Alors, la friandise, ça peut être bien. Et si, effectivement, le facteur connaît le nom du chien, c'est encore mieux. Qu'il lui dise « Bonjour Pacha, comment tu vas aujourd'hui ?» Voilà, de manière à ce que le chien le sente. Et puis, en souriant aussi, c'est important, parce que le chien va sentir « Ok, son attention est amicale.
» Et le maître, de son côté, sans la présence du facteur, pourrait faire quoi pour
Effectivement, chaque maître, je le répète, chaque maître étant responsable de son chien, c'est à lui de faire attention.
Il faudrait que le chemin du chien n'interfère pas avec le chemin du facteur.
Voilà. Alors, l'idéal, c'est que le maître soit là et que le maître dise « Eh oh, tu te tais, entrez monsieur, bonjour.
»
Que le maître peut faciliter la rencontre. Mais bon, la tournée des facteurs, en généralement...
Parce que souvent, la boîte aux lettres, c'est extérieur, donc on ne quitte pas le trottoir. Par contre, quand il y a un paquet à donner ou une lettre recommandée, il faut bien entrer.
Tout à fait. Mais c'est vrai que le simple fait de faire les présentations, ça règle beaucoup, beaucoup de choses.
Bon, on n'ira pas plus loin sur le problème des postiers, mais on peut remercier en tout cas Olivier d'avoir appelé au nom de ses collègues, parce qu'ils doivent en parler beaucoup entre eux. On va prendre tout de suite, comme je le disais, Caroline Lanty, et puis on reviendra sur d'autres questions que vous abordez dans votre livre, Laurence Bruder-Sergent, et notamment, puisqu'on est en période de vacances et qu'on en parle, comment partir en vacances avec son chien? C'est une des questions qu'elle vous répondait dans votre livre. Bonjour Caroline Lanty.
Bonjour.
Alors, très heureux de vous avoir au téléphone, malheureusement, pour parler d'un sujet qui est grave et qui est inquiétant, parce que c'est toujours, il y a toujours autant d'abandons de chiens à la période des vacances chaque année?
Alors, heureusement, il y a quand même moins d'abandons, puisqu'il y a quelques années, on avait le chiffre en tête de 100 000 abandons.
Oui.
Aujourd'hui, les chiffres qui sont communiqués, tant par les associations de protection animale que par le ministère, flirtent autour de 60 000, 65 000 abandons, donc c'est quand même moins.
Ouais.
C'est encore beaucoup.
C'est beaucoup.
Les structures d'accueil sont aujourd'hui saturées, et malheureusement...
Et est-ce que vous avez, vous, au niveau de la SPA, puisque le problème est ancien et récurrent, vous avez essayé de savoir ce qui motivait les gens qui abandonnaient leurs chiens?
Il y a de très nombreuses raisons. Il y a d'une part les personnes qui sont tentées par l'acquisition d'un animal de compagnie, par une publicité, par des animaleries, par une photo d'un petit chiot de 2 mois, qui ne réfléchissent pas au moment de l'acquisition et qui se disent « c'est mignon, on y va
».
Et qui ne se rendent pas compte que ça implique des promenades, ça implique de l'attention, ça implique des soins, qui n'ont pas pensé en prenant l'animal il y a un mois ou deux que les vacances approchaient et qu'il allait falloir s'en occuper, que si on prend l'animal avec soi, il faut s'organiser, que si on ne le prend pas, il faut également s'organiser à l'avance pour lui trouver une structure d'hébergement chez des amis, en famille d'accueil, dans une pension ou autre. Donc tout ça prend du temps et les gens se disent « j'y avais pas pensé » et finalement la solution la plus simple c'est encore d'abandonner l'animal. J'ai envie de dire dans le meilleur des cas dans un refuge de la SPA et pour des gens qui sont encore moins courageux sur le bord d'une route malheureusement.
Et par rapport au refuge de la SPA, ils vont pas chez vous, ils abandonnent l'animal dans le secteur?
Alors non, il y a plusieurs cas de figure. Il y a des personnes qui vraiment ont conscience de leur acte et de la dangerosité, surtout de laisser un animal divaguer sur la voie publique et qui viennent nous l'amener.
En disant, voilà, je ne peux plus m'en occuper.
Voilà, je ne peux plus m'en occuper ou alors je pars en vacances. Mais parfois, ce n'est pas les vacances. C'est mon enfant est devenu allergique, c'est vrai ou c'est pas vrai. Il aboie, je n'arrive pas à le maîtriser, les voisins me mènent une vie d'enfer. Donc il y a beaucoup de raisons, vraies ou fausses. J'avais une maison, je dois déménager en appartement, il est trop gros, je ne peux plus m'en occuper. J'ai changé mes heures de travail. Ou alors, écoutez, il est très malade, très vieux, il n'amuse plus les enfants. Ça nous arrive aussi.
Et donc vous, évidemment, vous êtes neutre par rapport à ça, c'est que vous acceptez, vous accueillez?
Dans la mesure
des places disponibles, comment ça se passe?
On accueille, oui, dans la mesure des places disponibles, et on voit uniquement l'intérêt de l'animal. On essaye d'une part de raisonner la personne, si on sent qu'il y a un discours qui est possible, de lui dire il n'y a vraiment pas une solution temporaire, vous ne pouvez pas le confier à des amis si vous partez en vacances. Pensez quand même au stress et à la difficulté que l'animal va avoir à supporter la séparation, pensez à tout ça. Donc parfois on arrive à rétablir la situation, mais sinon on regarde l'intérêt de l'animal, et si on sait que si on ne le prend pas, l'animal va être attaché à un arbre en forêt, ne fait pas de doute qu'on le prend immédiatement.
Et vous les proposez ces chiens par exemple à l'adoption après?
Et ensuite on propose ces chiens à l'adoption, alors on les garde un petit moment, on les teste, ce qu'on appelle, est-ce que ça va avec les enfants, est-ce qu'ils sont sympas, est-ce que ça va avec leurs congénères, mâles, femelles, voilà, on fait des petits tests, on a des vétérinaires, on a des comportementalistes également, il y a un check-up de santé, et si l'animal est en pleine forme, il est immédiatement et le plus
proposer l'adoption. D'accord. On abandonne plus en France que dans d'autres pays européens ou...
On a malheureusement le triste record d'une part du nombre d'animaux de compagnie, puisqu'il y a à peu près 9 millions de chats et 8 millions de chiens en France. Et on a corrélativement également cette fois le triste record du nombre d'abandons.
Et au moment des vacances, alors vous, la SPA, vous faites des messages, vous essayez de responsabiliser les gens. Ça fonctionne quand même s'il y a une diminution?
Oui, il y a une diminution. Le problème, c'est qu'actuellement, avec la modification un peu de la prise de congé, la réduction du temps de travail et autres, on assiste finalement à un étalement des abandons. Il y a toujours ce pic au mois de juin-juillet, mais on a quand même les abandons avant les vacances de Pâques, avant les vacances de février, ou alors après les achats de Noël. Régulièrement, dès le début janvier, on a les chiots. Donc c'est vrai que nous, et la difficulté, c'est que les gens, s'ils décident d'adopter, généralement reportent leur décision à la rentrée au mois de septembre.
D'accord.
Donc on a beaucoup d'abandons et on a malheureusement peu d'adoptions et les refuges tirent un peu la sonnette d'alarme parce qu'on va avoir du mal à faire face. Et si les gens se sentent capables d'avoir un animal et ont envie et ont mûrement réfléchi, on leur demande de venir nous voir dans les refuges.
Voilà. Donc s'il y avait qu'un message là à passer ce matin, c'est évidemment de renforcer, de demander aux gens de ne pas abandonner, de bien réfléchir avant d'avoir un animal.
Surtout bien réfléchir avant.
Voilà. Et de ne pas l'abandonner. Mais par contre, vous lancez aussi un appel éventuellement aux adoptions, c'est-à-dire que maintenant vous aimeriez que des gens viennent dans vos refuges SPA pour éventuellement adopter des chiens.
Tout à fait. On dit que si les personnes ont mûrement réfléchi, ont mûrement pris en compte les différents paramètres de travail, de vacances, d'enfants et tout, on leur demande en effet de venir, de se rendre sur le site internet de la SPA, spa.asso.fr, pour voir où on est implanté en France et en effet de venir nous rendre visite. Et également le deuxième message, c'est que ces abandons sont la conséquence généralement de la surpopulation animale en France. Et on demande aux gens d'être responsables, d'arrêter de faire reproduire leurs animaux, d'arrêter de laisser leur chat se balader alors qu'il n'est pas stérilisé,
Bien sûr,
et d'arrêter de vendre des portées de chiots animaux comme ça à tout bout de champ, ça crée beaucoup de misère animale à la fin.
Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir fait ce point, Caroline Nanty.
Je vous remercie, à vous.
Présidente de la SPA, donc, et j'espère qu'elle sera entendue. Merci beaucoup.
Bonne
matinée. On parlait de site internet là, pour la SPA, on va le mettre, bien entendu. Et je rappelle, parce que beaucoup d'auditeurs appellent aussi en disant, mais alors si ce livre est un compte d'auteur, on se le procure comment? Il y a même des libraires aussi qui nous appellent, vous voyez. Alors, donc, on se le procure. Alors, on va le mettre, et on l'a mis également sur europa.fr, mais le plus simple, c'est www.comportement-canin.com. Comportement au singulier, tiré au milieu, la touche 6,
voilà.
canin.com.
Canin.com.
Voilà. Et là, donc, vous verrez comment vous procurez ce livre qui s'intitule La cause des chiens, donc, qui a été concocté par Laurence Bruder-Sergent, qui est mon invité ce matin. Le sous-titre, comment interpréter les comportements du chien de compagnie. Alors, on parlait des abandons et des partir en vacances avec son chien. Vous abordez cette question dans votre livre.
Oui.
Vous dites, là, il faut quand même réfléchir parce qu'il y a des plages où on ne peut pas se promener avec un chien. Enfin, il faut vraiment se renseigner avant.
Eh bien, la question à se poser, voilà, à qui est-ce que cela fera le plus plaisir? Nous, on a envie d'emmener notre chien avec nous et c'est super. Il fait partie de notre famille. C'est un membre à part entière. Mais est-ce qu'il va devoir rester toute la journée à l'hôtel ou dans la caravane, ou dans la voiture. Alors là, la voiture, il y a encore des chiens qu'on retrouve morts dans les voitures en plein soleil, alors qu'on le sait pourtant qu'on ne les laisse pas, même à l'ombre. Quel va être le quotidien de ce chien pendant les vacances? Est-ce qu'il va devoir faire 12 heures de route? Est-ce qu'il va être enfermé la plupart du temps? Est-ce qu'on sera suffisamment détendu pour profiter de nos vacances? Et que va-t-il devenir? Donc parfois, pour son bien-être, il peut partir en vacances de son côté, c'est-à-dire chez des amis, dans la famille, où il sera bien mieux que enfermé dans la chambre d'hôtel. Surtout si c'est un petit destructeur, ça vous coûterait cher à la fin.
C'est ça. Mais enfin, si c'est un petit destructeur, c'est pas un cadeau à faire à ses amis non plus.
Non, mais les amis sont peut-être plus tolérants que l'hôtelier.
Il faut que le chien connaisse l'endroit où les gens chez qui il va quand même, parce que sinon
effectivement c'est mieux quand même.
C'est vraiment la galère. Alors il y a énormément d'appels là, mais je crois que vous avez à peu près répondu. C'est Aline qui nous appelait du Haut-Rhin, qui est infirmière, elle a 25 ans et elle a la phobie des chiens depuis l'adolescence. Alors elle vous dit, j'ai jamais été mordu mais je les évite parce que j'ai peur d'être mordu, et plus j'ai peur, plus le chien sent ma peur, et ça me fait encore plus peur.
Oui, c'est un cercle vicieux, tout ça. Alors, vous savez, moi j'interviens dans les écoles, dans des établissements scolaires où il y a beaucoup de jeunes enfants, et ils me disent toujours, mais comment on doit faire pour éviter de se faire mordre? Alors je leur dis, vous faites la statue ou la tortue? C'est-à-dire, vous restez bien droit, vous ne regardez pas le chien, vous ne le regardez pas dans les yeux, vous ne lui parlez pas, vous ne bougez pas. Ou alors, si vous êtes un enfant, vous faites la tortue, c'est-à-dire vous vous recroquevillez sur le sol. Si le chien vient directement vers vous, en courant par exemple, là le mieux c'est de protéger votre visage et vos bras et vos mains, donc en faisant la tortue par terre. Bon, ça les enfants aiment bien. Vous, je vous vois mal dans la rue, Aline, vous faire la tortue. Mais par contre, donc, une attitude à avoir quand on a peur des chiens, c'est surtout ne courez pas, ne hurlez pas, ne criez pas, gardez votre calme, ne le regardez pas, essayez de rester le plus neutre possible. Et vous éviterez les problèmes.
C'est valable pour les éléphants aussi. D'ailleurs, je me souviens qu'un de mes amis, Alain Bougrain-Dubourg, m'avait raconté qu'allant au milieu de je ne sais quel endroit, en Afrique ou en Asie, on lui avait dit, si un éléphant te charge, il faut surtout ne pas bouger. Il faut quand même avoir des nerfs d'acier dans l'éléphant. Et vous dites la même chose dans votre livre avec les chiens, en disant, surtout ne courez pas parce que le chien est un prédateur. Donc, en fait, vous l'invitez à la chasse.
Exactement. Vous vous transformez en proie et il va vous poursuivre. Tout à fait.
Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup d'autres questions sur sur le comportement des chiens avec les jeunes enfants.
Oui.
Et vous dites, là, les comportementalistes connaissent un certain nombre de choses que vous nous faites partager dans votre livre.
Alors, on voit un petit peu de tout, c'est-à-dire un chien qui arrive dans une famille où il y a des enfants, un enfant qui naît dans une famille où il n'y avait qu'un chien. Donc, comment les parents se posent à juste titre la question, comment le chien va intégrer le bébé? Est-ce qu'il va se sentir délaissé? Est-ce qu'il va le prendre en grippe? Comment faire les présentations? On a aussi les problèmes des enfants qui arrivent à la puberté, donc qui passent du statut d'enfant au statut d'adulte. Donc, au niveau des hormones, tout ça change. Il y a pas mal de morsures qui arrivent à la puberté des enfants. Donc, c'est un problème qui mériterait presque une émission, tellement il y a deux choses à dire là-dessus. Disons que là encore, c'est aux parents de veiller à ce que l'enfant ne harcèle pas le chien, parce qu'un chien correctement socialisé, c'est-à-dire un chien qui est stable mentalement, n'attaquera jamais un enfant. Ouais. Par contre, s'il est malmené, s'il est harcelé, il va répondre. Ouais. Et là, ça signifie généralement la mort de l'animal qui n'a fait que répondre après avoir été harcelé. Ouais. Donc là, il faut remettre les choses à leur juste place. Et c'est justement l'objet de ce livre, c'est remettre, expliquer quelle est la réalité du chien et comment il fait, lui, pour s'adapter à nos contraintes, à nous.
Ouais.
Voilà.
Ouais. Alors, mais vous dites aussi dans votre livre autre chose, c'est que le comportement du chien peut changer à la période de la puberté.
À la période de la puberté de l'enfant.
De l'enfant, oui.
Mais
bien sûr,
aussi
oui.
Lui, bien entendu. Oui. Vous savez, tout à l'heure, je disais que...
Vous avez une explication à ça.
Eh bien, les hormones. C'est-à-dire que avant, l'enfant était un copain de jeu. Et tout d'un coup, il devient éventuellement un rival. Ouais. Alors, ça dépend si le chien est un mâle, mm-hmm. et si l'enfant est un garçon, ouais. si c'est une chienne, si c'est une jeune fille. Mm-hmm. Tout ça, ça fait beaucoup de paramètres à prendre en ligne de compte et les résultats ne sont pas les mêmes.
Ouais. Parce que vous dites, pour un chien et un garçon, mais qui passe cette période de la puberté, ses hormones changent, son odeur change et le chien va le considérer cette fois comme un concurrent.
C'est possible.
Potentiel, quoi.
Voilà, ouais. c'est possible.
Ça peut expliquer le comportement agressif du chien.
Si on prend, ouais. si vous voulez, un exemple d'un chien de type molosse, ouais. qui sont, contrairement à ce qu'on pense et contrairement à ce que la loi laisse penser, ne sont pas dangereux du tout si on les éduque correctement. Mmh. Mais prenons l'exemple d'un American Staff qui a 9 mois, il commence à lever la patte pour faire pipi, donc il est en plein dans l'adolescence, il se croit grand et fort et beau, ouais. et capable de tout. Ouais. Et on a un jeune garçon qui a 13 ans, qui lui, pareil, il commence à se sentir adolescent, il teste l'autorité, il voit jusqu'où il peut aller, et il a envie de faire des exercices d'obéissance avec son chien. Donc tous les deux sont adolescents, tous les deux sont dans une période de montée de testostérone, ils ont envie d'en découdre, là, attention, ça risque de chauffer. Ouais. Donc là, j'ai vraiment pris deux exemples extrêmes,
oui, bien sûr,
mais c'était pour dire que bah, tout dépend des conditions. On a un chien qui avait sa place sur le canapé jusqu'à présent, et puis on ne la lui disputait plus, et ouais. puis un jour, l'enfant lui dit « bon, pousse-toi de là maintenant que je m'y mette ouais. », et voilà, et ça commence comme ça.
Alors, il y a aussi pas mal de questions, là j'en ai une sous les yeux, celle de Laurence qui nous a appelé de Vichy, dans l'Allier, mais beaucoup d'autres auditeurs ont appelé là-dessus, c'est sur les maîtres ou les maîtresses et les chiens qui ont développé mutuellement un très fort attachement, ce qui fait que beaucoup d'auditeurs disent « mais si je dois m'absenter, si je dois sortir parce que je suis invité à dîner ou je vais au théâtre, au cinéma, voir des amis, le chien se met à trembler, à japper, et puis surtout, quand en mon absence, il hurle à la mort, ça peut durer des heures, les voisins ne sont pas contents. Comment changer ce genre de comportement ?
Ça, c'est justement le problème que je rencontre le plus fréquemment, moi.
Ouais.
C'est ce qu'on appelle l'anxiété de séparation ou l'angoisse de la solitude.
Ouais.
Donc, on a appelé ça de différentes manières. Mmh. Donc, concrètement, c'est un chien qui est tellement attaché à son maître que son absence lui est insupportable. Mmh. C'est-à-dire qu'il ne voit la vie qu'au travers des yeux de son maître. Et quand il n'est pas là, il commence à angoisser, à stresser. Il devient anxieux.
Ouais.
Et l'anxiété, c'est une émotion qui est très difficilement supportable.
Ouais.
Si vous l'avez déjà ressenti un jour, vous devez savoir qu'on ne supporte pas ça très longtemps.
Ouais.
Alors, on va adopter des attitudes de substitution, des comportements auto-centrés, par exemple. Nous, les humains, on va remettre nos lunettes en place, on va se remettre les cheveux derrière les oreilles, on va ouais. se ronger les ongles,
ouais.
on peut fumer,
ouais.
On peut se mettre à faire du jogging. Ouais. On va tous trouver une manière de se distraire, de penser à autre chose.
Ouais.
Le chien, lui, n'a que ses pattes et sa gueule.
Alors,
un chien X va faire pipi partout, un chien Y va tout casser, un chien Z va hurler à la mort,
ouais.
un chien A va cumuler tout ça.
Ouais.
Donc, ça donne plein de possibilités. Alors, que faire ? Le maître mot, c'est détachement. C'est-à-dire, régler un petit peu cet hyper-attachement, cet attachement excessif.
Mmh.
Il faut que le chien apprenne à retrouver un petit peu d'autonomie, qu'il devienne indépendant un minimum.
Ouais.
Donc, généralement, c'est souvent une relation qui est très fusionnelle. C'est-à-dire que quand le maître est présent, il s'occupe de son chien tout le temps.
Ouais,
il le papouille, il le prend dans les bras, il lui fait des caresses,
ouais.
il lui parle tout le temps. Donc, le chien, en fait, il est drogué. On entretient ça. Il est drogué à son maître.
Mmh.
Donc, il faut le sevrer peu à peu. mais évidemment pas comme ça du jour au lendemain.
Bien sûr, oui.
Il faut y aller de manière progressive. Ouais. Mais ça,
donc
si
avoir
vous...
des moments où, même étant dans l'appartement par exemple, ou dans oui. la maison avec le chien,
on ne s'en occupe pas.
Chacun fait voilà, un vague,
voilà. Donc on peut.
On ne se regarde pas.
On peut être dans une pièce et le chien dans ouais. une autre, où effectivement oui. on n'est pas en train de le toucher, de le câliner, ouais. Ouais. on ne s'occupe pas de lui tout le temps.
Ouais.
Il faut y aller progressivement parce qu'un chien qui a été habitué à être ouais. l'exclusivité, ouais. Tout doucement, si on veut le détacher, ouais. il faut faire
et on progressivement. Et on détourne son attention au moment où on sort ou pas ?
Ça alors non, marcher, il vaut mieux ça, hein. éviter les rituels ouais. de départ parce ouais. que le chien sent bien quand on ouais. se prépare à partir travailler.
Ouais.
On ne met pas les mêmes vêtements mmh. que quand on part ouais. en promenade.
Ouais.
Le chien, il nous observe. Hein. Mmh. Il nous connaît parfaitement ouais. parce qu'il passe son temps à nous observer.
Et donc, à la limite, il faut pratiquement prendre une journée de 24 heures, j'allais dire, et faire des tests, c'est-à-dire sortir 10 minutes, revenir, et puis ensuite sortir 2 heures ou...
Alors là, vous savez, il y a
ouais.
la thérapie comportementale...
C'est compliqué, là, ouais.
Oui, c'est ça. C'est un peu du cas par cas.
D'accord.
C'est-à-dire que, vous savez, je vais vous parler du chien qui a fait que je suis devenue comportementaliste,
ouais.
Moi, elle me cassait tout dans mon appartement.
Ouais.
Donc, il a fallu que je change un certain nombre de choses. Et
ouais.
puis, le problème a été réglé en 3 semaines. Hein. Mais
ouais.
c'est exceptionnel, ça ne se passe pas toujours aussi vite.
Ouais.
Mais effectivement, changer les rituels de départ, c'est-à-dire, si vous avez l'habitude de vous lever, promener le chien, vous rentrez chez vous, vous déjeunez, vous vous habillez et vous partez,
mmh.
essayez de changer le rituel. Par exemple, en vous préparant à l'avance. C'est-à-dire que le chien soit en train de dormir au moment où vous vous levez et vous partez. Donc votre sac à main, vos clés sont prêts,
voilà,
vous
d'accord.
prenez vos affaires et vous partez tout de suite,
ouais.
de manière à ce qu'il n'ait pas le temps de stresser.
D'accord. Et pour les chiens, on pourrait passer 3 heures
oui,
ensemble.
Oui, on pourrait passer 3 heures dessus.
Pour les chiens qui sautent sur les gens, par exemple, ça peut être très dangereux aussi, parce que ça dépend de la taille du chien, hein,
oui.
mais entre un caniche.
Alors
chien,
ça, c'est une histoire d'éducation.
Ouais.
C'est-à-dire que le chien saute ouais. parce qu'il est tout content. Hein. Il veut vous faire la fête.
Ouais.
Son intention est tout à fait
ouais,
positive.
S'il saute sur la grand-mère,
c'est très embêtant.
Et voilà. Ou
alors,
sur un enfant.
En fait, tout à l'heure, Jean parlait des méthodes positives pour éduquer un chien.
Ouais.
Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle le Mouvement français,
ouais.
des éducateurs de chiens de compagnie qui utilisent les méthodes amicales et positives. Ça veut dire qu'on n'est plus du tout dans assis, couché, debout, viens là tout de suite.
Ouais.
On est plutôt dans l'éducation de manière agréable et ludique.
Mmh.
Donc, par rapport à cet exemple du chien qui saute sur les gens, on peut très bien lui apprendre un comportement différent. C'est-à-dire, ce comportement-là, sauter sur les gens ne t'apportera rien. Par contre, si tu te tiens bien, alors là, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, on va lui apprendre de manière positive le bon comportement et on va lui faire oublier peu à peu le comportement qu'on ne souhaite plus voir.
Et ça passe quand même par un minimum d'autorité aussi ou de...
Oui.
Enfin, les chiens comprennent. Vous disiez, un chien ne comprend pas... on ne peut pas dresser un chien à comprendre tout ce que veut un humain, mais en général, ils connaissent un certain nombre de mots comme « non ».
Ben vous ouais. savez, ça c'est encore ouais. une idée que les chiens comprennent un certain nombre de mots
ouais.
et pas plus.
Ouais.
En fait, les mots, ils ne les comprennent pas, c'est un conditionnement.
Ouais.
C'est-à-dire qu'ils ont associé une sonorité avec une action.
Ouais.
Donc on peut très bien apprendre à un chien à s'asseoir en lui disant coucher, en lui apprendre à venir en lui disant va-t'en.
Ouais.
À partir du moment où, quand on l'a éduqué, on a utilisé toujours la même sonorité, le même stimulus,
mm-hmm.
le chien va le relier.
Oui. Donc, ouais. Donc, en fait, une fois de plus, il n'y a pas non plus de règles, mais il y a des moyens de contourner.
Voilà, en fait, pour
les
résumer
choses,
tout ça, il faudrait
ouais.
aller voir des gens qui
voilà,
connaissent
bah
ce
oui,
comportement
c'est,
et qui pourront vous l'expliquer.
C'est, ouais, c'est votre travail.
Parce que
finalement.
Malheureusement, ouais. vous savez, il y a aussi des gens qui disent oh, ouais. ça fait 20 ans que j'ai des
ouais.
chiens, alors vous
ouais.
pensez si je les connais.
Ouais.
Oui, mais moi, depuis que je suis née,
ouais.
je vais chez les médecins et ça ne fait pas de moi un médecin.
Toute dernière question très, très rapide.
Okay.
Laurence Bruder-Sergent, est-ce que le comportement d'un chien, est-ce que le comportement aussi donc de l'humain, doit changer au fur et à mesure qu'il vieillit. Est-ce que la vieillesse transforme le comportement d'un animal de compagnie comme chez les humains,
comme chez les humains.
Dire, parce que,
voilà, en fait, oui, la réponse
est dans
la question.
Il y a des vieux très gays, des vieux très acariâtres, hein, quand même. Bon.
Voilà, il y en a
c'est
qui vieillissent plus ou moins bien,
ouais.
Il y en a qui sont râleurs chez les humains, il y en a qui sont belliqueux
oui,
chez les
bon.
Chiens. Alors, effectivement, ouais. il y a des chiens qui vieillissent plus ou moins bien, la maladie
ouais.
affecte leur comportement,
ouais.
et ce serait bien que nous adaptions le nôtre en conséquence.
Ouais.
On ne peut pas demander à un chien vieillissant de bousculer ses habitudes. Par exemple, emmener un chien de 15 ans faire du trekking, c'est pas raisonnable.
Ouais.
Il est bien mieux sur son canapé ouais. à vieillir paisiblement. Il y a droit, on peut le respecter,
ouais.
ça.
Et évidemment aussi, il y a beaucoup de gens qui aiment bien avoir un Saint-Bernard dans un studio. C'est pas impossible, vous le dites dans votre livre.
Non, c'est pas du tout impossible.
Mais voilà quoi, il va avoir besoin
mais
de sortir.
Mais il aura besoin de sortir, voilà. Il aura besoin qu'on oui. le dépense.
Oui. Alors, donc, la question, combien de mots un chien peut comprendre, on l'évacue hein,
Bah, disons qu'il peut comprendre un certain nombre de mots, je dirais pas ça, mais il peut associer un certain nombre de choses.
Voilà, d'accord. Oui. Mais c'est pas ça la clé. Parce
il y a certains chiens qui sont capables d'associer plus de choses que d'autres, et c'est là qu'on revient aux chiens d'assistance qui sont capables de mémoriser énormément de choses.
Ouais. Écoutez, je vous remercie. Je voudrais dire aussi à tous les médecins de campagne qui nous ont appelés pour nous rappeler qu'il n'y avait pas que les postiers qui avaient des problèmes de temps en temps avec les chiens dans les fermes. J'espère que vous avez été entendus. Je vous remercie beaucoup. Je suis vraiment ravi d'avoir eu l'occasion d'aborder tous ces thèmes passionnants. Je renvoie tout le monde donc à votre livre, édité à Compte d'Auteur. Laurence Bruder-Sergent, c'est votre nom. La cause des chiens. Comment interpréter les comportements du chien de compagnie. Et puis, je vous ai dit et je vous redonne donc l'adresse internet où on peut se procurer ce livre, www.comportement-canin.com. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Jacques.
Voilà, ma chère Julie. Eh bien, je retourne à la niche. Jusqu'à demain.
C'était Jacques Pradel.
Je viendrai avec mon propriétaire.
À demain.